Texte 9, autour de la découverte de la pénicilline, texte écrit par Évariste Sanchez Palencia, reprenant sous une forme modifiée du matériel qui se trouve dans un livre du même auteur, Promenade dialectique dans les sciences, paru chez Hermann en 2012. Avant l'apparition de l'homme, les animaux léchaient leurs plaies. Nous léchons aussi souvent une petite coupure avant d'essayer de la panser autrement. La salive doit avoir un pouvoir guérissant. Depuis longtemps, les paysans savaient que les moisissures du pain servaient à prévenir l'infection des plaies. Les cavaliers arabes utilisaient à cette même fin des moisissures prélevées des harnais des chevaux. Pourquoi ? Personne ne savait. C'était une propriété des moisissures. En 1928, les temps ont changé. On connaît les micro-organismes, leur rôle sur certaines maladies et sur le processus d'infection. Il y a une recherche expérimentale en biologie. On veut comprendre le fonctionnement du vivant par curiosité scientifique, mais aussi pour pouvoir guérir les maladies. La recherche biologique est étroitement liée à la médecine. Au St. Mary's Hospital de Londres, Alexander Fleming et Charles Latouche conduisent des recherches distinctes dans deux pièces contiguës. Le premier travaille sur les vertus curatives de la salive, plus précisément sur des enzymes présentes dans la salive et leurs effets sur un redoutable microbe, le staphylocoque. Le deuxième travaille sur un champignon microscopique, le Penicillium notatum, qui produit des allergies chez des personnes asthmatiques. Un jour, au retour de vacances, Fleming s'aperçoit que l'une des boîtes contenant ces cultures de staphylocoque a été envahie par une moisissure verdâtre. De toute évidence, elle a été contaminée par le Penicillium de son collègue. L'expérience en cours est ratée, on doit nettoyer la boîte et recommencer. Mais la curiosité de Fleming est attirée par le fait que sur une bande autour de la moisissure, le staphylocoque n'a pas poussé. La contamination qui a gâché son travail n'est pas arbitraire. Elle a une physionomie. Elle lui parle. Fleming émit l'hypothèse qu'une substance sécrétée par le champignon est responsable de l'inhibition de la croissance du staphylocoque et lui donne le nom de pénicilline. Il suppose que la pénicilline a une action du même type que celle des enzymes de la salive sur lesquelles il travaillait. Mais il ne parvient pas à isoler la pénicilline, qui n'est qu'une hypothétique substance sécrétée par le champignon. Il prouve qu'elle n'est pas nocive pour l'homme et suggère même de l'utiliser comme antiseptique appliqué sur la peau lors des blessures ouvertes. Mais faute d'être isolée en tant que substance, elle est inséparable du champignon qui la produit. Sa manipulation est malaisée et son dosage impossible. L'intérêt de Fleming et de ses collaborateurs pour la pénicilline décroît lentement. En 1939, la guerre ayant éclaté en Europe, l'intérêt pour les agents anti-infectieux renaît. C'est alors que Florey et Chen réussissent à isoler la pénicilline à l'université d'Oxford. Dès 1941, ses effets curatifs sont reconnus, mais la production à grande échelle nécessite une intervention massive de l'industrie, principalement américaine. Les États-Unis sont en guerre depuis décembre 1941 et la pénicilline y est considérée comme substance stratégique. Des souches de pénicillium produisant une grande quantité de pénicilline sont sélectionnées et les milieux de culture sont développés et transformés, alors que d'autres substances analogues, d'autres antibiotiques, telles que la streptomycine, sont découvertes et développées. Fleming avait des capacités d'observation et un sens de la causalité peu commun. Il était aussi curieux. Il a su faire une pause dans les travaux sur les substances issues de la salive pour comprendre ce qui s'était passé dans sa boîte contaminée au lieu de la nettoyer au plus vite. Tout cela n'a pas suffi à développer les antibiotiques en tant que médicaments usuels. D'autres connaissances, d'autres capacités étaient prêtes et on a su les mettre à profit et coordonner. C'est une belle histoire qui finit bien. Qui finit bien ? Rien ne finit en recherche. La recherche est un tissu d'interrogations, d'exemples, de curiosités, d'échecs, de petites avancées, d'hypothèses et de causalités, de frustrations, de découvertes aussi. Mais les découvertes, toujours recherchées, lorsqu'elles daignent se présenter, ne sont jamais des aboutissements. Elles suscitent d'autres interrogations, d'autres hypothèses, d'autres frustrations. Les bactéries combattues par les antibiotiques se sont souvent transformées, développant des variétés résistantes à ceux-ci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne doit utiliser des antibiotiques qu'en cas de besoin. Tout emploi de ces substances contribue au développement de souches résistantes. C'est logique. S'il y a des souches résistantes et d'autres qui ne le sont pas, les antibiotiques tueront celles-ci et l'on se retrouvera à terme exclusivement avec des bactéries résistantes. Logique, oui, mais la réalité est plus complexe. Vers la fin des années 50, des hôpitaux japonais ont été confrontés à un phénomène d'une rare intensité de résistance aux antibiotiques de la bactérie de la dysenterie. En étudiant le phénomène, il est apparu que cette résistance ne suivait pas le schéma ci-dessus. Elle sautait parfois à une souche normale, non résistante aux antibiotiques, et développait alors une souche douée de résistance héréditaire. La résistance se développait donc de façon beaucoup plus active que par simple reproduction des souches résistantes. Phénomène difficilement compréhensible qui a provoqué une recherche tout azimut, d'explication plausible. C'est ainsi qu'on s'est aperçu que le phénomène était analogue à celui des variégations, une découverte de la biologiste américaine Barbara McClintock, 1902-1992, vers la fin des années 1930, considérée sans intérêt, puis pratiquement oubliée. De quoi s'agissait-il ? Barbara McClintock étudiait du point de vue génétique une variété de maïs dont les épis étaient panachés de diverses couleurs. Les grains d'un même épi étaient tantôt bruns, rouge-orange ou tachetés, et la distribution des couleurs sautait d'une souche à une autre, se reproduisant ensuite par hérédité. Ce phénomène était impossible à expliquer avec les idées classiques à l'époque, puisque la fréquence des mutations génétiques fortuites devrait être beaucoup trop petite par rapport aux changements constatés. Elle observa alors que certains gènes du maïs pouvaient se déplacer d'un endroit à un autre d'un chromosome, ou même sauter d'un chromosome à un autre. Les chromosomes avaient des points de faiblesse qu'elle appela DS pour Dissociation Sites. Mais ces travaux, ne portant que sur la couleur des grains d'une certaine variété de maïs, ne reçurent pas à l'époque l'attention méritée par leur portée fondamentale sur les mécanismes de variation génétique. C'est donc l'intérêt médical de la résistance aux antibiotiques qui a fait connaître et apprécier à leur juste valeur des connaissances pratiquement oubliées. Ensuite, les variégations ont été étudiées par leur intérêt propre en génétique. Ces fragments d'ADN faiblement attachés par des dissociation sites, baptisés transposons, peuvent sauter d'un endroit à un autre des chromosomes ou d'une bactérie à une autre. Ils ont été par la suite retrouvés ailleurs que dans les bactéries, chez la mouche drosophile et les animaux supérieurs, y compris l'homme. C'est une véritable révolution dans la compréhension de l'hérédité et du génome. L'insertion d'un transposon dans un gène l'inactive. Cette inactivation peut être transitoire si le transposon se déplace à nouveau sans laisser de traces. Si au contraire, il laisse une partie de ses séquences ou une copie de celle-ci, on a une source de variation génétique très importante au sein d'une population. Le génome d'une espèce n'est plus vu de nos jours comme immuable, mais bien au contraire comme changeant et fluide. Nous venons de voir comment la recherche fondamentale et la recherche appliquée s'imbriquent, comment la curiosité des intéressés fait sauter des verrous, comment la science est multiforme, même cohérente. Cela nous permet de nous livrer à un petit exercice sur le thème de « Que se serait-il passé si ?» en enchaînant les éléments qui précèdent. Si Fleming n'avait pas eu la curiosité de comprendre ce qui s'était passé dans sa boîte contaminée, la pénicilline n'aurait pas été découverte, ni les antibiotiques. Il n'y aurait pas eu des microbes développant une résistance aux antibiotiques et la redécouverte des transposons n'aurait pas eu lieu. Ceci serait resté longtemps une explication d'une propriété pittoresque d'une certaine variété de maïs. Si Barbara McClintock ne s'était pas intéressée à cette curieuse variété de maïs, il est probable que les transposons auraient été découverts plus tard lors des recherches sur la résistance des bactéries aux antibiotiques, pourvu que Fleming eût eu la curiosité de savoir ce qui s'était passé dans sa boîte contaminée. Et que se serait-il passé si ni Barbara McClintock ni Alexander Fleming n'avaient été curieux? Eh bien, si les chercheurs n'étaient pas curieux, s'ils ne passaient pas une bonne partie de leur temps à s'interroger, souvent de façon obsessive, sur des questions qui n'intéressent personne d'autre, y compris d'autres collègues, la recherche ne se ferait pas. Nous ne comprendrions pas les variations du génome. Est-ce important? C'est une affaire d'opinion. Mais je vous rappelle que nous n'aurions pas non plus des antibiotiques.